Pauline Pucciano, Paradict, 10 décembre 2071. Abidjan, le niveau des eaux monte. Développement d'une nouvelle philosophie de vie, les survivalistes gagnent du terrain. Une caravane entière décimée en région Italie par le cyclone Udolpho. Le mois de décembre fut particulièrement chaud et battit des records de pluviométrie. Certains jours, au pic de pollution, l'eau ne tombait pas en pluie régulière, mais en giclées oléagineuses, tièdes et vaguement iridescentes. Ça vous tombait dessus comme un liquide organique, vomi par le ciel, tachait vos vêtements et vous faisait glisser sur les trottoirs. Il y eut à 2 reprises une alerte cyclonique, mais à chaque fois le cyclone s'éloigna au dernier moment, remontant vers le nord-ouest au milieu de l'Atlantique ou prenant la direction de la Pologne. Les morts climatiques, comptabilisées chaque week-end, s'entassaient dans l'imagination des habitants de la City. 27 morts dans les Alpes, en raison des vents tourbillonnants, 90 morts dans les inondations, 102 morts dans les transports. On avait fini par comptabiliser aussi les morts indirectes, 21 morts de déshydratation. La WA se félicitait de ce chiffre remarquablement bas, dû aux mesures de prophylaxie prises depuis quelque temps. 930 morts par crise d'asthme. Mais la nature n'était pas seule à s'échauffer à l'approche de Noël. Les attentats fleurissaient presque quotidiennement, décorant de rouge les rues de la City. 3 morts sur le pont de Grenelle, 4 morts dans une voiture piégée devant le siège de la WA, 5 morts à Nanterre, dont 4 enfants. Francis Costa passait un temps considérable devant son ordinateur, errant sur les réseaux sociaux, oubliant souvent le but premier de ses recherches. Il lisait d'innombrables articles, notamment sur sa fille, et se perdait de plus en plus souvent dans une sorte d'état de conscience flottant, où son attention était retenue par des détails infimes. Il réfléchissait à la composition des mots, observait interminablement des motifs graphiques sur des images publicitaires. Le double flux de l'information sur son écran et de ses propres souvenirs désordonnés absorbait sa conscience, ou plus exactement, la noyait, la submergeait. Il pouvait rester 1 heure entière sur une image ou sur un texte, puis, comme dans un bâtiment qui renaît après une panne d'électricité, la lumière revenait dans son cerveau et il était capable de refaire surface. Il devait prendre ses médicaments, faire ses pansements, appeler Elsie. Nous étions en décembre, les élections approchaient et ce serait bientôt Noël. Cela faisait plusieurs décennies maintenant que le calendrier électoral avait épousé le calendrier civil. Les votes se faisaient traditionnellement le 24 et les passations de fonction le 31. On avait espéré vaincre les taux grandissants d'abstention par l'euphorie de Noël et l'excitation symbolique de la nouvelle année. On avait surfé sur cette vague millénaire avec un certain succès. Les campagnes se nourrissaient à la fois de l'exaspération commerciale et de la ferveur familiale. Les fêtes de fin d'année devenaient un moment de participation intense à la vie sociale, politique et économique, agrémentée d'un décorum redoublé. Les candidats chantaient sous des sapins synthétiques, avec des écoliers. Les familles allaient voter ensemble. Le dépouillement prenait des allures d'ouverture des cadeaux. L'hymne de la WA et les Christmas Carols, les tickets d'or, les loteries et les bulletins de vote, les candidats et les Pères Noël se confondaient dans une féerie de lumières clignotantes, de paillettes et de nourriture colorée. Dans cette atmosphère surchauffée, Elsie était de jour en jour plus favorite dans les sondages. Ses meetings, ses bains de foule, ses discours la faisaient grimper sans cesse plus haut. Il semblait qu'il suffise à cette créature bien aimée des médias d'apparaître ou de faire quelque chose pour que l'opinion la suive. Personne ne s'expliquait d'ailleurs très bien cet engouement général. Après tout, Elsie Costa n'avait rien de réellement extraordinaire. Elle servait les mêmes dieux et parlait la même langue que ses prédécesseurs. Mais cette continuité, symbolisée par l'alliance quasi royale avec Terence Oxford, loin d'agacer, avait au contraire ravi les réseaux sociaux. L'annonce du futur mariage avait éclipsé pour de bon les vagues rumeurs sur un projet secret, qu'Elsie avait d'ailleurs balayé avec un rire charmant à la conférence de presse. Kim Cooligan elle-même avait changé de sujet, victime de l'envoûtement qui touchait le monde entier. Elsie Costa montait sereinement les échelons du pouvoir, tandis que la tension montait de toutes parts, comme un arc tendu prêt à décocher une flèche puissante. Le monde politico-médiatique était bandé, figé dans l'attente du trait, emmagasinant l'énergie qui déborderait d'une manière ou d'une autre dans un moment intense et jubilatoire. Évidemment, derrière les mains pieusement tenues et les tendres sourires de façade qui s'étalaient, parfois très artistement, à la une des journaux, Elsie et Terence vivaient des heures délicates. C'était probablement leur couple qui réclamait pour chacun d'eux leur ressource ultime de diplomatie. Terence devait à la fois se montrer un prince consort fidèle et dévoué, une doublure compétente pour effectuer certaines tâches qu'Elsie lui déléguait, un conseiller de tous les instants, un confident discret et un amant performant. En plus de ses multiples casquettes, déjà fort exigeantes, il lui fallait aussi remplir sa mission personnelle, qui était de lutter de manière souterraine contre Léviathan. Dissimuler sa participation à la divulgation du projet, mais aussi et surtout instiller le doute chez Elsie, lui rappeler les fondamentaux éthiques du parti, l'imprégner sans cesse de son humanisme, afin d'éviter la catastrophe par tous les moyens. Cette mission était-elle vraiment secrète? Il se le demandait souvent, car Elsie paraissait très bien savoir à quoi s'en tenir à ce sujet, qu'elle évitait d'ailleurs dans l'intimité avec une ingéniosité diabolique. Garder Terence auprès d'elle lui paraissait être sa priorité. C'était d'ailleurs devenu une obligation politique depuis l'annonce du mariage. Elle lui était encore très attachée, bien sûr, mais la nature de cet attachement avait changé. Elle n'était plus amoureuse de l'homme qu'elle avait admiré. Elle s'apprêtait maintenant à l'entraîner avec elle jusqu'au sommet, en espérant qu'il ne la ferait pas tomber à la dernière marche. Elle voyait clair dans ses tentatives pour l'influencer et se montrait parfois dubitative ou songeuse pour lui faire plaisir. Mieux, elle lui laissait une entière liberté de parole lors des séances du conseil. Cette instance confidentielle réunissait la fine fleur de la WA, avec des représentants du Parti du Développement, du Parti de l'Innovation, de l'ensemble des chefs de service, de la communauté scientifique, militaire. Là, Terence pouvait laisser libre cours à sa verve d'avocat. Ce n'était pas dangereux, car elle était alors dans une position d'écoute où personne ne la mettait jamais en devoir de donner son avis. Lorsque le sujet avait été débattu amplement dans la journée, il était plus facile de l'éviter le soir, dans une situation où il aurait pu la mettre au pied du mur. Ainsi, en eau trouble, en lui fermant la bouche par des baisers, elle parvenait à tenir en laisse, tout près d'elle, le plus fervent opposant à la politique qu'elle commençait à envisager sérieusement. Au conseil, elle put faire le tri rapidement entre ses collaborateurs potentiels. Terence se constituait comme le chef de file du parti qu'elle aimait appeler conservateur, celui qui refusait l'idée même d'un recours à une intelligence artificielle pour une application politique. Le laisser parler haut et fort avait plusieurs avantages certains. Tout d'abord, cela permettait à ceux qui étaient d'accord avec lui de le dire ouvertement. Elle prit ainsi bonne note de tous ceux qui devraient être écartés par la suite. Ensuite, cela lui donnait l'occasion de se montrer ouverte et profondément démocrate. Le débat d'idées, parfois violent, auquel elle ne prenait jamais directement part, semblait la passionner, et elle paraissait respecter la liberté d'expression de chacun et rechercher le consensus. Cela contrebalançait la décision de tenir Léviathan secret pour le grand public, qui avait fait grincer quelques dents dans ce même conseil lors de la première séance. Abel, à sa grande surprise, se montrait aussi sérieux que discret. Il assistait aux réunions du conseil et participait de temps en temps à la discussion, toujours de manière très nuancée et pertinente, mais sans jamais se mettre en avant. Il tenait son rôle de petit frère à la perfection, mieux qu'elle ne l'en aurait jamais cru capable. Mieux qu'en famille, évidemment, où il se sentait toujours obligé de faire le zèbre, probablement pour faire rire Alvar. Elsie pensait déjà à lui pour de hautes responsabilités dans l'avenir, mais elle ne lui en disait rien. Il devait continuer à faire ses preuves, et elle prenait plaisir à l'observer pendant les réunions. Le mélange de jalousie et de fierté qu'elle avait toujours éprouvé envers lui pouvait finalement se résoudre aujourd'hui dans une collaboration fertile. Elle n'arrivait pas à savoir ce qu'il pensait de Léviathan. Il semblait réserver son jugement pour un moment ultérieur et emmagasiner les informations avec beaucoup de circonspection. Cette attitude rationnelle lui paraissait de bon augure, car tous les opposants à Léviathan, et Terence en premier, se définissait en effet par le cœur et non par la raison. Elle aurait dû se méfier, en réalité, d'un Abel devenu sage. Abel lui-même, parfois, se disait qu'il en faisait trop, mais elle avait un tel sentiment d'aînesse qu'il lui était tout simplement impossible d'imaginer que son cadet pût réussir à la duper. Abel s'amusait de voir qu'elle s'émerveillait de sa maturité et de sa retenue. Il éprouvait d'ailleurs un certain plaisir lui-même à jouer ce rôle. Il trouvait toujours une chose intelligente à dire, un conseil avisé à donner, un silence à observer au moment opportun. Ce personnage assez silencieux lui laissait tout le temps d'écouter, de prendre des notes sur tout le monde et de sonder sa sœur, qu'il connaissait certainement mieux que toutes les personnes de ce conseil, Terence compris. Abel ne mit pas longtemps à comprendre qu'Elsée avait déjà fait son choix. Il connaissait la phrase de Sartre qu'Elsée citait souvent. « Quand la délibération commence, la décision est déjà prise. » Si elle avait réuni ce conseil, ce n'était donc pas pour l'aider à prendre sa décision, mais pour accompagner une décision qu'elle avait déjà prise, pour acclimater la classe politique à cette idée nouvelle, pour sonder ses amis et ses ennemis. Plus il en apprenait sur Léviathan, plus il lui semblait qu'un gouffre s'ouvrait entre sa sœur et lui. Il l'avait vue évoluer d'un peu loin, et ne s'était jamais senti vraiment proche d'elle, mais là, elle défiait sa compréhension. Elle, toujours si donneuse de leçons, si pleine de bons sentiments, si prompte à rappeler les dogmes sacro-saints du parti. Il avait parié qu'elle deviendrait l'épouse de Terence Oxford, c'est-à-dire une épouse dévouée, une femme de l'ombre, éperdue d'admiration et de conviction. Mais voilà qu'elle avait, contre toute attente, inversé les rôles, et personne ne paraissait s'en rendre compte. Abel écoutait beaucoup Terence et l'observait aussi quand il regardait sa future femme, et il était arrivé à la conclusion que Terence, lui, n'était pas dupe. Il savait qu'elle s'était transformée en une bête politique terrible, et l'ardeur avec laquelle il défendait ses idées ne pouvait signifier qu'une chose, il craignait de n'avoir plus beaucoup de temps pour les défendre. Léviathan était un monstre politique, une aberration à laquelle Abel se refusait intimement, immédiatement, d'accorder le moindre crédit. Il était tout ce contre quoi les Carpe Fatum se battaient, la rationalisation à outrance de la société, la soumission et l'endormissement de l'humain, la perte de sa liberté. Comment Elsée pouvait-elle faire, ne serait-ce qu'un pas dans cette direction? Comment tant d'autres têtes pensantes pouvaient-elles l'envisager comme une solution à la crise mondiale? Abel faisait des listes dans sa tête et consignait chaque détail. Au parti de l'innovation, Graham Chalayan semblait sceptique au départ, mais se laissait peu à peu convaincre des bienfaits de la machine. Au parti du développement, une ligne de fracture se dessinait nettement entre Terence Oxford et Lee Ann Hung d'un côté et Charles Saphir, Curtis Anglione et Frederick Johnson de l'autre. Ces trois derniers prônaient une voie médiane qui correspondait, il le savait, à la position actuelle d'Elsée. L'utilisation de Léviathan pour l'examen préalable des mesures. Karl Courseul, dans sa perpétuelle neutralité sur le fond, était également une aide précieuse pour Elsée. Les généraux étaient divisés, la communauté scientifique également. Elias Zelkin, un cybernéticien de renom, également spécialisé dans l'intelligence artificielle, et qu'Abel percevait clairement comme un vieux rival de Higgins, alertait les profanes contre l'effet de divinisation des intelligences artificielles. Capable d'effectuer des calculs qui nous dépassent et pour lesquels notre esprit humain ne peut même se faire un ordre de grandeur, les IA avaient tendance à être considérées de manière quasi religieuse. Les énoncés qu'elles produisaient n'étaient pas remis en question, et cela aboutissait à une nouvelle forme de dogmatisme bien loin de nos méthodes scientifiques. Parmi les chefs de service, quelques-uns se tenaient plutôt dans la ligne d'Oxford, mais la majorité constituait une masse suiviste et silencieuse. Abel avait longuement réfléchi à la manière dont il pouvait faire parvenir ses informations à Cyril sans griller sa couverture. Il avait songé à tout avouer, qu'il ne venait pas de la route, qu'il faisait partie de la WA, mais cela lui avait semblé trop dangereux pour le moment. L'amitié qui les liait était déjà très forte, mais naissante et, à ce titre, fragile. Abel ne voulait pas compromettre l'image de lui que Cyril s'était formée, et il préférait continuer à mentir et trouver un autre biais. Naturellement, il avait utilisé le paradigme comme source. Il avait inventé une histoire compliquée, le mettant en relation avec un membre de la WA qui souhaitait anonymement divulguer certaines informations parce qu'il se sentait préoccupé et même effrayé par la situation. Un lanceur d'alerte. Cyril et Oswald l'avaient cru. Ils avaient mis Abel en relation avec des hackers du groupe qui s'était mis à travailler d'arrache-pied pour diffuser cette information de manière plus virale dans le paradigme, ses petites clés étant décidément trop limitées. Oswald avait été le premier à avoir l'idée d'un sabotage spectaculaire de l'espace virtuel. le premier attentat virtuel toucha le paradicte le 12 décembre. L'idée en elle-même était simple. Il s'agissait de répandre un objet semi-inerte qui modifierait en surface la structure des anges touchés. Ce fut en l'occurrence une explosion de flammes qui interrompit un spectacle musical au milieu d'une salle de concert virtuelle très courue, le Carnegie Virtual Hall. Les spectateurs virent une sorte de déchirure dans l'espace virtuel et un flot orangé se répandre en une vaste nuée ardente. Tous les anges touchés furent immédiatement tatoués sur le bras gauche, avec la phrase « Vous serez bientôt dirigés par une IA, Carpe Fatum ». Ces grands feux s'étaient ensuite répétés plusieurs fois, les 15, 18 et 21 décembre, jusqu'à ce que le système trouve une parade efficace contre ce mode opératoire. L'ange de l'un des hackers de Carpe Fatum fut, au dire d'Oswald, éjecté définitivement du paradicte en essayant de renouveler l'opération. L'accès au code des espaces publics fut fermé aux anges qui n'étaient pas architectes, et les tentatives malheureuses de modification de l'environnement se soldèrent par des éjections nombreuses. Certains utilisateurs chevronnés perdirent ainsi des anges ultra-perfectionnés qu'ils avaient mis des années à créer. Et c'est ce qui donna à ces attentats virtuels un petit retentissement dans le paradicte. L'idée qu'Elze Costa travaillait en sous-main avec une intelligence artificielle refit surface sur les réseaux, la plupart du temps parmi un fatras de théories complotistes stupides que la WA traita par le mépris et ne prit pas même la peine de démentir. Par hasard, Elina se trouva parmi les anges abruptement tatoués par ces sabotages. Elle avait assisté à un vaste forum dédié à l'architecture et vécu la vague de panique qui avait suivi l'explosion des flammes. Elle racontait à qui voulait l'entendre, et spécialement à Alvar, comment une langue de feu qui lui semblait munie d'une tête chercheuse avait fondu sur elle et quelle étrange sensation électrique cela lui avait procurée. La petite phrase « Vous serez bientôt dirigé par une IA, Carpe Fatum » s'était calligraphiée sur son bras et elle avait mis plus de 48 heures à trouver la ligne de code à effacer pour la supprimer. Alvar s'était renseigné sur le groupe Carpe Fatum sans beaucoup d'intérêt. Il avait lui-même deux sujets de préoccupation majeurs qui lui laissaient peu de loisir de penser à autre chose, son enquête et Sonia. L'enquête, malgré l'avancée majeure permise par Bassel Kazra, semblait piétiner. Le col blanc était introuvable. Les Caucasiens entre deux âges, en costume élégant, s'exprimant en anglais et correspondant plus ou moins au portrait robot, étaient si nombreux dans la WA qu'il valait mieux chercher une aiguille dans une botte de foin. De plus, la piste de la voiture n'était pas sûre. Il n'y avait pas de numéro d'immatriculation, et ce modèle pouvait très bien appartenir à n'importe qui. La piste virtuelle ne donnait lieu qu'à une impasse également. La fille aux yeux d'or, Mantra, était demeurée introuvable depuis leur entretien. Il n'était pas impossible que cette fille fût de mèche avec l'assassin. Alvar avait même eu l'idée que ses appels téléphoniques pouvaient être destinés à tracer Marek jusque dans sa caravane. Elle, ou n'importe qui d'autre, aurait pu passer un appel pour permettre à quelqu'un d'effectuer une triangulation et de retrouver l'adresse physique de Marek. Il aurait fallu un premier appel afin de localiser la caravane. Le deuxième appel, celui qui était en cours quand Bassel Kazra avait pénétré dans la roulotte de Marek, était peut-être destiné à vérifier que le travail était fait. Cette triangulation était techniquement faisable, mais nécessitait l'utilisation d'un satellite public, et cela n'était possible qu'avec un niveau d'accréditation élevé à la WA. Alvar avait fait ses recherches pour trouver la liste des techniciens capables d'effectuer une triangulation, mais ils avaient dû être sollicités de manière informelle, officieuse, à cette heure tardive. Il lui faudrait sans doute examiner leurs comptes bancaires, trouver d'éventuels pots de vin. Cela concernait presque les affaires internes, et il ne se sentait pas très à l'aise pour fouiller seul de ce côté-là. En ce qui concernait Sonia, les choses avaient pris un virage inattendu. Le soir où il l'avait rejointe au Blue Note, une série de contretemps et d'empêchements objectifs les avait empêchés de parler, et depuis, ils correspondaient par message écrit, sans se voir. De jour en jour, ces messages prenaient plus d'importance, et l'addiction d'Alvar à leur apparition devenait plus forte, plus obsédante. Lire les messages de Sonia était la première chose qu'il faisait en se réveillant, et la dernière qu'il faisait en se couchant. Si elle tardait à lui répondre plus d'un quart d'heure, il n'avait de cesse de vérifier son mobile, et il consacrait une immense partie de son temps intérieur à réfléchir aux mots qu'il lui enverrait. Même le paradicte semblait avoir perdu de sa puissance d'enchantement, comparé à ce dialogue différé, étrange et profond, dans lequel leurs deux âmes s'effleuraient du bout de l'aile. Il n'en disait rien à Elina, mais il se connectait moins souvent. Ce fut Sonia qui lui proposa de passer la soirée du 24 avec lui. Il devait venir la chercher au Blue Note. 24 décembre 2071. Ce soir-là, le gérant avait installé un écran géant sur le mur adjacent à la scène, et on voyait défiler les multiples images de la soirée électorale, ainsi que les bandeaux d'information de dernière minute. Le visage d'Elzé apparaissait sans cesse, cela avait troublé Alvar au début, mais maintenant, il n'y faisait plus attention. Il n'y avait quasiment pas de suspense, d'ailleurs, depuis le ralliement officiel du Parti de l'Innovation. Seul le candidat du Parti des Identités, personnage populiste et controversé, se tenait en face d'elle, et tout le monde attendait, sans grande effervescence, la confirmation d'une victoire annoncée depuis plusieurs semaines. Des publicités de jouets et des images de vitrines et de marchés de Noël du monde entier alternaient avec des photos et des vidéos d'Elzé, et des commentaires interminables dont on n'entendait pas le son. Les clients regardaient plutôt Sonia sur la scène, mais ils jetaient régulièrement un œil sur l'écran, surveillant une réalité qu'ils n'oubliaient pas tout à fait dans cette bulle musicale intemporelle. Sonia, en effet, avec sa guitare acoustique et sa petite robe noire, paraissait surgir d'une autre époque, et plus exactement d'un milieu de XXe siècle presque oublié. Elle ranimait les élégantes langueurs de la série noire et les lenteurs nocturnes du jazz, avec un swing toujours empreint de cette fatigue presque imperceptible qui faisait toute la saveur de cette époque. Fatigués les flics désabusés, les tueurs qui en avaient trop vu, les femmes fatales qui ne croyaient plus au grand amour, les musiciens alcoolisés échoués au milieu d'une nuit interminable. Fatigués et pourtant sur le point de succomber une dernière fois, de rempiler pour la dernière affaire, pour la dernière passion, pour la dernière chanson. À la fin de sa prestation, elle descendit de la scène pour venir s'asseoir à côté d'Alvar. Sa démarche un peu traînante était sensuelle, et il la buvait des yeux. Ils s'étaient parlé 100 fois par texto dans la journée, et goûtaient silencieusement la joie de se retrouver dans leur corps, incarné, saturé de perceptions et d'émotions. Elle ferma les yeux et l'embrassa lentement, et le goût d'alcool sur sa langue lui parut délicieux. Alvar ne savait plus où il était, et son mobile qui vibra le fit sursauter. Il se dégagea à regret, tandis qu'elle buvait une gorgée dans son verre et regarda de qui provenait l'appel. Karl Courseul. Il ne connaissait personne de ce nom, mais c'était peut-être le travail. Alvar Costa, bonsoir, enchanté de faire très bientôt votre connaissance. Je suis le conseiller en communication de votre sœur et elle m'a chargé de vous convier à notre petite célébration dans les locaux de la WA. Elle souhaiterait que vous passiez chercher votre père.
Une célébration ? Répéta Alvar, encore étourdi par son baiser.
Oui, nous avons gagné, votre sœur est élue. C'est encore officieux, bien sûr, mais c'est déjà certain.
Est-il vraiment nécessaire que...
« C'est absolument indispensable, » dit l'homme avec un ton déterminé. « Votre sœur vous attend au plus tard dans une heure, et n'oubliez pas votre père. »
Karl Courseul avait raccroché. Alvar s'excusa et tenta de rappeler Elzé, mais bien sûr elle ne répondit pas, non plus qu'Abel ou que Francis.
« Elzé est élue, » dit-il à Sonia. « Elle me demande de passer prendre mon père et de rejoindre son équipe pour une célébration. »
Sonia l'embrassa à nouveau, comme si elle ne l'avait pas entendu.
« Je ne te quitte pas ce soir, où que tu ailles, » prévint-elle. « J'espère que je peux y aller comme ça, » ajouta-t-elle en montrant sa robe. « Je suis désolée, Sonia, je ne savais pas que... »«
Ça n'a pas d'importance, » le coupa-t-elle. « Nous avons toute la nuit. »
Elle alla poser sa guitare et dire quelques mots au gérant, puis, en quelques minutes, ils furent dehors. La nuit hostile de la rue contrastait avec la nuit feutrée du club, et ils se dirigèrent vers l'interurbain, avec le sentiment qu'il s'agissait de l'une de ces nuits sans fin, où, malgré la fatigue, la vie vous entraîne dans une danse qui durera jusqu'au matin. Lorsqu'ils sonnèrent chez Francis, Alvar avait une vive appréhension, et il fut d'abord soulagé de voir son père, vêtu d'un costume élégant et rasé de près.
« Ah, Alvar, c'est toi. Vous arrivez bien tard, » fit-il, en maugréant.
« J'ai fait aussi vite que j'ai pu.
Tu ne me présentes pas cette jeune femme ?»
« Si, bien sûr, c'est mon amie Sonia. » Francis dévisagea Sonia, comme s'il allait lui faire un compliment ou lui dire quelque chose, mais il n'en fit rien et détourna son attention.
« Où sont les paquets ? » demanda-t-il.
« Les paquets, » répéta Alvar désorienté. « Quels paquets ? » ?»«
Les cadeaux, voyons ! Ne me dis pas que tu as oublié que c'est le réveillon ! Tu ne peux pas être à ce point dans la lune !»
Alvar poussa son père pour entrer et vit la table mise pour 4 personnes avec des serviettes blanches et 2 paires de couverts.
« Mais, papa, dit-il d'une voix étranglée, nous t'avions dit qu'on ne ferait pas le réveillon ce soir, Elsée ne pouvait pas, elle est...
« Et quand veux-tu faire le réveillon si ce n'est pas ce soir ? Réveillon, ça vient de réveiller, je te signale. Ça veut dire qu'on ne se couche pas. On ne réveillonne pas le 25, que diable !»«
Vous avez préparé beaucoup de choses ?» demanda Sonia pour venir en aide à Alvar.
« Je n'ai pas prévu les quantités pour 5, je suis désolée. »«
Il y a un changement de programme, papa. Elsée m'a appelée, elle m'a dit de venir te chercher. Elle organise le réveillon au bureau, à la WA, avec nous tous. »«
Mais pourquoi ne m'a-t-elle rien dit, gronda Francis ?»
« Où est ton téléphone, papa ?»«
Oh, qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Alors elle ne viendra pas ?»«
Non, elle ne peut pas se dégager. Elle est élue, papa. »«
Élue ?
Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Elle est élue, aux élections globales, secrétaire générale de la WA, » martela Alvar avec patience. « Même à moi, ça me fait bizarre de le dire à haute voix. »«
Ah bon ? Elle est élue ?»
Francis avait changé d'attitude et paraissait maintenant désorienté.
« C'est important, alors ? Elle est contente ?»
« Oui, très contente, » dit Alvar. « Elle nous attend, toi et moi. Et Abel sera probablement là aussi. »
« Eh bien, allons-y, » dit Francis, en souriant soudain, ingénument. « Vous n'avez rien au four ?» demanda Sonia.
Alvar alla vérifier, éteignit les lumières, prit les clés, la ventoline, les cachets de son père, ses papiers. La vue de la table de Noël, à laquelle personne ne viendrait s'asseoir, lui causa une impression étrange. Si Elsée ne l'avait pas appelée, si elle avait fêté sa victoire avec son équipe, Francis serait-il resté là, indéfiniment, à les attendre, dans son beau costume, en face de leur chaise vide ? Aurait-il pleuré un soir de Noël sur cette absence incompréhensible ? Abel arriva sur un appel de Karl Courseul environ une demi-heure avant Alvar. Il connaissait la plupart des gens qui affichaient ce soir une gaieté réelle ou feinte. Abel affichait exactement la même et ne cherchait pas à savoir quelles parts obscures prenaient, dans cette gaieté, les restes d'une solidarité familiale, l'adaptation naturelle aux circonstances, le plaisir d'être aux premières loges et de partager une once de cet immense pouvoir, et le plaisir plus trouble du chasseur traquant un gros gibier. En tout cas, il n'avait pas besoin de faire d'efforts pour se mettre au diapason général. Elsée l'avait gratifié d'une accolade chaleureuse, et il supposait qu'il n'en tirerait pas beaucoup plus ce soir. Les gens faisaient déjà la queue autour d'elle pour lui adresser un petit compliment et lui glisser un mot sur un dossier en cours. Il fallait les voir essayer de placer leurs pions, tout en dévorant leur petit four végétarien. On cherchait quelque chose de spirituel à lui dire, on était prévenant, jusqu'à l'écœurement, on gloussait à la moindre de ses plaisanteries. Abel observait ce manège avec délectation. Il comprenait que le monde venait soudain de se transformer pour Elsée. Un coup de baguette magique avait effacé toute trace de mauvaise humeur ou de maussaderie sur le visage de ses interlocuteurs. Elle était soudain entourée d'une armée de lutins bienfaisants qui n'avaient d'autre but, apparemment, que de contenter tous ses désirs, de prendre part à toutes ses préoccupations. Chacune de ses paroles était maintenant écoutée comme une parole philosophique ou religieuse. On lui prêtait une grande profondeur, même quand elle disait des banalités. On la trouvait désopilante à chaque fois qu'elle se fendait de la moindre ironie, du moindre soupçon d'autodérision. Et cela n'allait pas s'arrêter là, non, cela ne faisait que commencer. Elsée était d'ailleurs d'une beauté stupéfiante ce soir, le succès la faisait presque briller. Au-delà de cette comédie, dont Abel commençait à se lasser au bout de 20 minutes, se jouait autre chose. L'échiquier commençait à prendre forme autour de la reine. Le roi, par exemple, se trouvait, au plus près d'elle, totalement noyé dans son ombre. Terence Oxford aurait pu, aurait dû, en toute logique, se trouver à la place d'Elsée. Si Abel y songeait, lui ne pouvait pas manquer d'y songer également. Derrière l'uniforme gaieté de façade, il arborait une expression indéchiffrable, dans laquelle Abel croyait discerner quelque chose de plus qu'une pointe de jalousie ou d'amertume. La garde rapprochée, qu'Elsée retenait près d'elle, commençait à se dessiner aussi. Karl Courseul était un fou, John Higgins l'une de ses tours, Curtis Anglion et Frédéric Johnson une redoutable paire de cavaliers. Et Abel ne savait quelle pièce restante attribuer à Graham Shalayan et à Charles Saphir. Les chefs de service, hommes et femmes discrets, seraient des pions convenables. En revanche, on pouvait voir que la cordialité d'Elsée à l'égard de ses adversaires du Conseil
et notamment Lian Hung et Elia Zelkin, s'étaient considérablement rafraîchis. Ils n'avaient pas réussi à percer le barrage informel qui la protégeait et se trouvaient, bien qu'invités à cette célébration, spatialement et politiquement exclus de la victoire. Abel, sur une de ses impulsions subites, se fraya un chemin jusqu'à Terence et n'eut aucune difficulté à engager la conversation avec lui. Karl Courseul observa bien ce rapprochement, mais détourna le regard. Abel jouissait d'une accréditation très élevée, qui lui permettait d'aller et de venir à sa guise, ce qui était également le cas de Terence.
« Bonsoir, monsieur Oxford, » dit Abel avec déférence.
« Je vous en prie, Abel, appelez-moi Terence. Comment allez-vous ? »
« Merveilleusement bien, » répondit Abel, avec une exagération qui pouvait paraître ironique.
« J'ai encore beaucoup de mal à réaliser que ma grande sœur est arrivée, par un coup de baguette magique, au sommet du pouvoir. »
« Un coup de baguette magique, » reprit Terence, « c'est beaucoup dire. Elle doit surtout sa victoire à ses incroyables qualités personnelles. »«
Bien sûr, » dit Abel précipitamment. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Simplement, rien ne la destinait à cette fonction. » Il y a quelques mois, j'aurais plutôt parié sur vous. »
Terence le dévisagea, se demandant manifestement comment il devait prendre cette sortie.
« Sic transit gloria mundi » déclama-t-il. C'est amusant parce qu'il y a quelques semaines, je reprochais à ma famille de ne s'intéresser aux élections que par le petit bout de la lorgnette, continua Abel. Je leur disais que l'important n'était pas qui allait accéder au pouvoir, mais ce que cette personne, quelle qu'elle soit, allait y faire, quelle politique elle allait mener.
Terence semblait de plus en plus mal à l'aise, mais cela n'empêcha pas Abel de continuer comme si de rien n'était.
« Et c'est vraiment cela que nous célébrons ce soir, la politique que va mener Elsie. C'est pourquoi elle nous rassemble. »
Terence sourit de manière appuyée et leva son verre.
« À la politique d'Elsie, » dit-il.
« À la politique d'Elsie, » répéta Abel, et de proche en proche, un toast général fut porté. Une petite surprise avait été préparée pour Elsie. Un drone déboula en chantant Jingle Bells et vint au-dessus de sa tête déverser une pluie de confettis holographiques. On s'égaya fort de cette trouvaille, et c'est à cet instant qu'Alvar, Sonia et Francis furent introduits dans la salle de réunion. Toutes les têtes se tournèrent instinctivement vers ces créatures venues d'une autre planète. Un type qui ne cherchait à impressionner personne, une jeune femme en robe légère, un vieillard. Il y eut une brève confusion, suivi d'un torrent de gentillesse qui menaça de les emporter.
« Elsie, c'est votre papa qui vient vous féliciter. Oh, comme c'est charmant. Regardez comme il est ému. »
De fait, Francis paraissait au bord des larmes. Était-ce l'odeur des locaux souterrains qui ravivait dans sa mémoire 40 années de loyaux services? Ou la vision de sa fille auréolée de gloire, illuminant positivement la salle de sa présence? Était-ce la fatigue de l'interurbain qu'il venait de prendre? Ou la crainte soudain vibrante de faire un faux pas? Abel n'aurait su le dire. Il le regarda avancer vers sa fille, porté par la marée de lutins bienveillants, puis il s'excusa auprès de Terence et courut accueillir Alvar, à peine moins hagard que son père.
« Ah, tu es là !» dit Alvar. « Papa ne va pas du tout. Il avait préparé le réveillon à la maison. »
Abel ne put s'empêcher d'éclater de rire.
« Elsie est élue secrétaire générale et papa déraille. C'est une soirée vraiment surréaliste, à marquer d'une pierre blanche, ou noire. »
Alvar et Sonia échangèrent un regard appuyé et l'ombre d'un sourire.
« Salut Sonia, tu es la dernière personne que je m'attendais à trouver ici, » fit remarquer Abel à mi-voix, d'un ton un peu mufle. « Alvar, tu veux que je te présente à tout ce beau gratin ? Tu n'as qu'à faire ton choix. » On a ici de l'ancien chef de parti, du futur ministre et même peut-être du ténor de l'opposition. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?
Alvar dévisagea Abel, qui avait le même regard que lorsqu'il lui donnait jadis à manger des bonbons poivrés de farce et attrape. Il se rendit compte que son petit frère s'amusait énormément dans cet endroit, qui lui apparaissait à lui comme une assez bonne représentation de l'enfer.
« Je veux que tu me sortes de là, Abel. Je ne tiendrai pas plus de 10 minutes. »
Abel prit le bras d'Alvar avec assurance.
« Ok, on va la faire courte alors, mais tu ne sais pas ce que tu rates. »
Dans le fond de la salle, Elsie était dans les bras de son père, mais quelque chose clochait dans le tableau. Il ne s'agissait pas d'une accolade réglementaire qui durait le temps d'une prise de vue. Il s'agissait d'un effondrement, d'une étreinte désespérée du vieil homme qui agrippait ses bras noueux autour de sa robe fragile. Abel admira la contenance de la nouvelle secrétaire générale. Rien ne trahissait l'agacement qu'elle était en train de ressentir.
elle se comportait de manière parfaite, digne et patiente. Abel avait pourtant l'impression de l'entendre crier intérieurement, et ce cri inarticulé avait aussi été entendu par les antennes aiguisées de Karl Courseul qui volaient présentement à son secours. « Eh bien voilà, Alvar, souffla Abel, tu vas féliciter ton aîné, serrer quelques mains, essayer de sourire, et puis tu vas proposer de raccompagner papa, et tout le monde te considérera comme un héros. » Les poignées de main, en vérité, avaient déjà commencé. Alvar en avait presque le tournis. « Je vous présente notre frère, Alvar Costa, inspecteur de la police globale. »«
Inspecteur de police? Quel dévouement !»«
Elze a aussi un frère policier? Je n'en avais jamais entendu parler. »«
Enchanté, monsieur Costa.
Une photo de famille, peut-être. »
« Alvar, dites-vous, vous êtes le Costa caché. Monsieur Costa, c'est un honneur de faire votre connaissance. »
La traversée de la salle parut à Alvar ne devoir jamais finir, mais ils se retrouvèrent bientôt là, tous les quatre, près des rideaux pourpres qui ne voilaient aucune fenêtre et qui ressemblaient à un accessoire de théâtre. Karl Courseul avait réussi à dégager Francis du corps d'Elzé, et il lui faisait actuellement la conversation avec un entrain et une cordialité irréprochables. Francis hochait la tête de temps en temps.
« Bravo, Elzé, tu dois être contente, » dit Alvar sans conviction.
Elzé jeta un coup d'œil circulaire pour vérifier qu'on ne pouvait pas l'entendre et mit la main devant sa bouche pour empêcher qu'on puisse lire sur ses lèvres.
« Dites-moi que je rêve. Je gagne les élections globales et c'est précisément ce soir qu'il faut qu'il perde la tête. C'est à croire qu'il le fait exprès. »
« Ça fait un moment qu'il déraille un peu, » remarqua Abel.
« Oui, » confirma Alvar.
« La première fois, c'était à ton meeting. »
« Et pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?»«
Parce que tu avais d'autres sujets de préoccupation, » dit Abel. « Parce que je ne t'ai pas vu et que tu ne m'as pas appelé depuis, » dit Alvar.
« Et maintenant, je me retrouve à cause de vous dans une situation impossible. »«
Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Je suis juste passée pour te féliciter, » dit Alvar.
« C'est vrai, tu ferais ça ?»
Abel fit un clin d'œil à son frère. Ils tournèrent la tête vers Francis, que Courseul avait laissé au bon soin de Sonia.
« Karl, » dit Elzé, « il faut me trouver quelqu'un pour mon père, une aide-soignante à domicile, c'est urgent. »«
Votre papa est effectivement très ému, » dit Courseul avec un sourire attendri. Puis il se tourna vers Alvar et continua.
« Alvar Costa, je présume. Je suis vraiment très heureux de faire connaissance avec vous in real life. Nous nous sommes parlé au téléphone tout à l'heure. Karl Courseul. »
Alvar se sentait gauche. Il ne savait pas comment répondre à ça.
« Enchanté, » dit-il sobrement. Alvar va tirer Elzé de ce mauvais pas en raccompagnant notre père, dit Abel.
Courseul se permit un petit sourire soulagé, un sourire à la fois complice et respectueux.
J'avoue que cela me facilitera la tâche. C'est vraiment très gentil à vous, monsieur Costa.
C'est mon père, dit Alvar en haussant les épaules. C'est normal.
Karl Courseul ne tarda pas à s'éloigner discrètement. Elzé respirait plus largement à présent et Abel sentit qu'elle se détendait un peu.
« Vous auriez quand même pu me dire qu'il avait des soucis, » reprocha-t-elle à Abel.
« Mais, ma chère sœur, c'est toi la fille parfaite, la préférée de papa. Nous pensions que tu t'en étais rendu compte par toi-même. »
Elzé jeta un œil à son père. Le vieil homme était assis, les yeux dans le vide. Sa main droite était agrippée à celle d'une jeune femme rousse, plutôt jolie, qu'elle n'avait jamais vue.
« Qui est cette fille ? » demanda-t-elle.
« Elle s'appelle Sonia, » dit Alvar. « Elle est avec moi. » Elzé enregistra l'information sans la commenter.
« Elle ne voudrait pas s'occuper de lui à domicile ? Il a l'air de bien l'aimer. »«
Il ne la connaît pas, et elle n'est pas aide-soignante, Elzé. Elle est artiste. Elle était avec moi quand ton conseiller en je ne sais quoi m'a sommé de venir te rejoindre ici avec papa. Si tu avais pris la peine de m'appeler, j'aurais pu te dire que ce n'était pas une très bonne idée. »
Elzé toisa Alvar, et prit une expression patiente et bienveillante, comme si elle s'adressait à un subalterne qui n'avait pas été assez remercié pour son dévouement.
« Je suis désolée, Alvar. Bien sûr, j'aurais dû t'appeler. »
Avec un geste très peu naturel, qui surprit Alvar, elle l'attira dans ses bras pour l'accolade réglementaire. Tout le monde put voir ce touchant tableau de famille. Elzé et ses deux frères, unis dans le succès, fonctionnaires émérites de la WA, soutien de leur père veuf. Il s'en fallait de peu que l'opération de communication ne fût parfaite, mais Francis eut un brusque sursaut de conscience et se leva précipitamment.
« Alvar, tu ne pouvais pas faire un effort vestimentaire pour une fois ?» gronda-t-il en regardant son fils de bas en haut.
« C'est une réception officielle tout de même. Il y a un minimum de forme à respecter. »«
Tout va bien, papa, » coupa Elzé. « Alvar n'a pas été prévenu, et c'est très bien comme ça. J'avais juste envie de partager ce moment avec vous. »«
Dis donc là-bas, ce ne serait pas Terence Oxford ?»
Elsé appela Terence, qui, en parfait gentleman, apparut aussitôt.
« Terence, je crois que tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer officiellement mon père. »
« Monsieur Oxford, je suis très honoré, balbutia Francis. J'ai toujours été un grand admirateur de votre carrière. J'ai toujours su que vous monteriez au plus haut. Toutes mes félicitations !»
Terence, que cette confusion chatouillait sur un point sensible, éclata d'un rire jaune. « Ha !
Ma foi, le plus haut, aujourd'hui, c'est d'épouser votre fille, et j'accepte de bon cœur vos félicitations pour cet exploit politique. »
Elsé lui décocha un regard glacial, mais tout le monde feignit de rire à cette plaisanterie. Il s'ensuivit une conversation à bâton rompu entre Abel, Terence et Elsé, qui se renvoyaient la balle à une telle vitesse que Francis ne pouvait pas en placer une. C'était d'ailleurs probablement le but qu'ils recherchaient tous les trois. Alvar les écouta une minute, puis leurs voix se transformèrent en bruits inintelligibles, et il se mit à voir la scène sans plus l'entendre, comme si un dieu cruel avait coupé le son. Les paroles fallacieuses, trompeuses, sucrées, s'étaient évanouies, et il restait la vérité des visages et des corps. Le corps froid d'Elsé, qui ne manifestait aucune tendresse, ni pour l'homme qu'elle allait épouser, ni pour son père. Le visage grimaçant d'Abel, qui se moquait de tout. Le visage décomposé de Terence, qui semblait assister à ses propres funérailles. Les masques grotesques des autres dans le fond, dégoulinant de fausseté. Le corps à moitié brisé de Francis, qui lui paraissait soudain rapetissé d'une dizaine de centimètres, et l'expression à la fois sévère et égarée de ses yeux gris. Un peu perdu, il tourna la tête et rencontra le regard de Sonia. Son corps gracile, sa pâleur, ses cernes, lui disaient la vérité de ses faiblesses. Sa peau mouchetée de taches de rousseur sous sa robe noire intemporelle semblait l'appeler. Elle lui sourit, et les paroles redevinrent compréhensibles soudain.
« Encore dans la lune, celui-là » maugréait Francis.
« Je te raccompagne, papa. Il est temps de nous éclipser. »«
Mais enfin, tu plaisantes, on vient à peine d'arriver. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été fichu de mettre une cravate que tu dois me priver du plaisir de voir ma fille et mon fils. »«
Je te signale que je suis ton fils aussi, » dit Alvar. « Papa, je te remercie vraiment d'être venu. Mais Alvar a raison, il vaut mieux que tu rentres, » dit Elsé, avec beaucoup de douceur. « Mais c'est le soir de Noël, » protesta Francis.
Le vieil homme, si grincheux l'instant d'avant, semblait maintenant désemparé. Sa douleur était comme celle des enfants très jeunes, déraisonnables, purs, d'une violence émouvante. Il y eut un moment de suspension, Elsé ne savait que faire, Terence ne savait que dire, et si Alvar insistait encore, Francis risquait de se déchaîner contre lui d'une façon spectaculaire. Karl Courcelle arriva, en fait, à point nommé.
« Ça y est, Elsé, l'annonce est officielle. Il y a des manifestations de liesse populaire dans la city. Il va falloir faire le communiqué de presse, peut-être le discours officiel. »
Francis lui coupa la parole d'un air d'autorité.
« Allez, j'ai compris, ma fille. Tu as du travail et je suis dans tes pattes. »
Elsé, déjà en train de penser à mille autres choses, dit au revoir à son père et oublia de saluer Alvar, qui ne put même pas lui présenter correctement Sonia. Ce fut Abel qui les raccompagna à la porte qu'ils avaient franchie moins d'un quart d'heure auparavant. Quelques heures plus tard, Alvar avait cependant oublié les embarras et les humiliations, les visages grotesques et les paroles vides, le corps ratatiné de son père et la nappe blanche sur la table familiale. Tout ce qui constituait le monde, toutes ses douleurs et toutes ses saletés, était resté quelque part au vestiaire, derrière la porte de l'appartement de Sonia. Un appartement sans fenêtre, un cocon où résonnait une musique chaude et enveloppante, où leurs corps s'épousaient dans un rythme lent. La peau de Sonia était encore plus douce, encore plus parfumée que dans son imagination, et leur nudité le faisait frissonner. Lorsqu'ils furent enfin immobiles dans la pénombre, il murmura « Joyeux Noël !»«
J'avais oublié quel jour nous étions, » dit-elle en souriant. « Joyeux Noël !»«
J'ai l'impression qu'on est dans la cabine d'un bateau, » continua-t-il d'une voix nocturne, plus grave qu'à l'accoutumée, « qu'on est en train de se déplacer. » « Le voyage immobile, » murmura-t-elle. « Sais-tu que la Terre se déplace autour du Soleil à plus de 100 000 km/h ?» Alvar l'embrassa à nouveau. Il n'osa pas lui dire qu'il l'aimait, mais cette vérité se faisait un chemin dans son corps, et il lui semblait qu'elle la comprenait silencieusement. En fermant les yeux, il s'imagina voguer paisiblement sous les étoiles, loin, toujours plus loin des rumeurs de la city, dont les contours géométriques se noyaient dans la brume.